France Culture.
Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. De la mémoire polonaise à l'histoire européenne. Troisième épisode, 1990-2005. Le mémorial des Juifs et des Tziganes. On ne s'éloigne pas des allées, on ne marche pas dans cette plaine immense de Birkenau. On suit les groupes, on suit les guides. À la fin des années 1960, un court-métrage de 15 minutes a été tourné à Birkenau par Andrzej Brozowski, Archéologia. C'est un documentaire en noir et blanc, sans parole. On n'entend que le bruit des pelles, un crissement continu qui fouille le sol du camp, tandis que le faisceau d'une lampe rampe sur le sol. Les objets affleurent aussitôt. Un peigne, une clé, une boussole, un bâton de rouge à lèvres, une bobine de fil, un dé à coudre, une pièce, un écrou. C'était là depuis 20-25 ans. C'est plein de terre, de rouille. Il suffit de creuser, à peine d'ailleurs. C'est là. Mais pour dire ce que sont ces objets, ou pour accepter de les regarder, il faut sans doute une autre génération. Les décennies qui s'ouvrent à partir de 1989 sont celles des yeux qui s'ouvrent, de la parole, de la reconnaissance. Le travail des chercheurs ne va plus cesser, la voix des témoins commence à se faire entendre. Un temps où l'on creuse, interroge, exhume, un temps où on révèle a commencé. Rien ne va de soi pourtant, puisque ce passé effroyable est le nôtre.
Aujourd'hui, aux petites heures, je reviens au rêve tel qu'il est apparu et a été conservé dans ma mémoire. Bon, cette nuit-là, dans ce rêve, j'étais de nouveau à Auschwitz, dans un des crématoires. Plus exactement dans ces ruines. J'entrais dans le rêve par ces ruines. C'était les ruines du crématoire où je n'étais pas entré lors de mon retour, me postant à l'opposé pour observer les restes noircis d'où surgissaient arbrisseaux et herbes. Je ne sais comment j'entrais, ni même comment il était possible d'entrer. Là, je vis une longue chambre, mais j'entrai et me retrouvai à l'intérieur. Son état de ruine n'étant que l'effet d'années d'abandon. La construction était entièrement au-dessus du sol, éclairée à la lumière du jour. Il y avait aussi une très longue table et des bancs faits de planches rugueuses. Un groupe de visiteurs était attablé. Ils faisaient le tour d'Auschwitz. Tous des Israéliens, non pas des jeunes, mais probablement aucun d'eux, me semblait-il, n'avait connu Auschwitz en ces temps-là, dans sa période de gloire. Tous écoutaient avec attention les explications du guide sur le bâtiment et ses fonctions, ainsi que sur le camp. Et le guide, prodiguant des explications au nom de la direction polonaise actuelle du camp, était le docteur Mengele. Tout le monde écoutait ces explications instructives sans commentaire. Mais il était clair pour tous, comme il était pour moi, que c'était lui dans sa fonction présente d'explicateur et de guide du site. De l'extérieur, il ne ressemblait pas à l'homme que j'avais connu alors, ni aux photographies ultérieures publiées dans la presse, prises quelque part en Amérique du Sud. C'était un homme dans la cinquantaine ou la soixantaine, aux cheveux grisonnants, avec un visage rond et de taille moyenne. Mais, je l'ai dit, il était clair pour moi, comme pour tous les autres, que c'était lui, le docteur Mengele. Je parlais avec lui. Son travail présent ne me parut pas si bizarre. Mais ce que je trouvais étrange, et sur quoi je l'interrogeais explicitement, c'était « Où étiez-vous donc passé depuis toutes ces années ?» Sa réponse, qui lui sembla la plus naturelle et la plus évidente du monde, fut « Comment ça, où j'étais ? J'étais ici, j'ai toujours été ici. »
En visitant Auschwitz, je l'ai visité avec le professeur Glugoborski, qui était un ancien déporté, très jeune, à l'âge de 15 ans, résistant polonais, et qui est devenu ensuite le directeur du musée d'Auschwitz. Et il se trouve qu'il avait consacré sa vie, donc il n'est jamais sorti d'Auschwitz, et il avait consacré sa vie à la recherche des traces concernant le génocide des Tziganes, enfin des Sinti et Roms. Et on se disait, entre nous, c'est un lieu provincial et diabolique.
Henriette Asseo, vous avez travaillé sur l'histoire des Tziganes. Est-ce qu'il y a une mémoire des Tziganes à Auschwitz ?
Bien, les Tziganes à Auschwitz, c'est une question centrale. Et d'ailleurs, personne ne s'y est trompé parce que tous les déportés se souviennent et mentionnent dans leur mémoire ou dans leur témoignage après l'existence des Tziganes. Et les Tziganes n'ont pas eu de reconnaissance après la guerre. C'est très tardivement et très difficilement que les leaders romani, je pense à Romani Rose, sont parvenus à arracher la reconnaissance d'une persécution raciale. Parce que le mythe d'après-guerre, eh bien, c'était que « Ah ben non, les Tziganes avaient été déportés comme des asociaux. »
On va passer peut-être par là. On va voir, on va essayer d'y entrer. Oui, ok, c'est ouvert.
23 000 Tziganes, ou Sinti et Roms, seront déportés à Auschwitz. La majorité d'entre eux sont des Allemands ou des Autrichiens. Comme les Juifs, ils sont destinés à y mourir. Selon la politique raciale nazie, eux aussi sont d'un sang étranger.
Sur le sort des Roms et Sinti d'Europe.
Mais contrairement aux Juifs, qui à leur arrivée subissent la sélection, c'est-à-dire sont envoyés soit au travail, soit à la mort immédiate, les Tziganes sont internés en famille, hommes, femmes et enfants, ensemble. Les enfants, notamment, sont considérés et traités par le docteur Mengele comme du « matériel de guerre » et victime des plus atroces expériences scientifiques. 32 baraques à Birkenau. Impossible même d'imaginer la superficie du Tziganerlager quand on parcourt cette étendue de ruines. Où est cette mémoire ? Comment est-elle réapparue ?
À partir des années 65-70, des associations tziganes auxquelles il faut rendre hommage, autrichiennes, allemandes, mais aussi tchèques et autres. Et parmi elles, Romani Rose, qui crée la centrale des Sinti et Roms d'Allemagne, qui bataille pour cette reconnaissance. Et il y parviendra progressivement. D'abord, par l'appui qu'il reçoit des institutions juives, qui elles-mêmes reprendra en charge le lieu d'Auschwitz en tant que cœur de la déportation, de l'extermination des Juifs d'Europe. Et le Romani Rose, il est soutenu par des jeunes historiens allemands. Et ce mouvement des jeunes historiens allemands est très important. Et ils vont, cette jeune génération allemande, elle rencontre les Tziganes à travers la découverte fondamentale. C'est le cœur du nazisme, c'est le cœur de la barbarie nazie, du rôle de la biocratie. Dans les années 60, le nazisme, c'est une sorte de superstructure avec un homme fou, Hitler, et une camarilla d'oligarchie plus ou moins excitée, qui a conduit l'Allemagne à sa perte. Or, ce sont ces historiens allemands, et donc les Tziganes sont intégrés à cette procédure, qui vont montrer à quel point cette vision est fausse. Et ça, c'est la génération des années 70. Cette génération prend conscience que leur pays a été non seulement soumis à la dictature de Hitler, mais consentante par l'engagement dans la barbarie à tous les échelons de la société.
Où sont les tziganes au musée d'Auschwitz avant que soit créée leur exposition en 1997? Ce sont ces quatre enfants rachitiques qui sourient sur une photographie. Ou ce sont ces portraits réalisés par Dina Gotlibova, une juive tchécoslovaque déportée à Auschwitz en 1943. La nuit va tomber, le musée ferme dans quelques instants. On entre une seconde dans le pavillon où ses œuvres sont exposées aujourd'hui. Une jeune femme au fichu bleu, de trois quarts, regardant au loin. Une Madone tzigane, dira d'elle Dina Gotlibova. Elle vient de perdre son enfant. Une autre, les cheveux blancs, qui regarde droit devant elle. À leur manière, ces aquarelles sont plus précises que certaines photographies. Ce sont des témoignages. La guide explique que Mengele avait choisi cette peintre pour rendre la couleur de la peau, des yeux, la forme du visage des tziganes, afin d'illustrer les théories raciales nazies. La guide ne nous explique pas que de 1973 à sa mort en 2009, Dina Gotlibova s'est battue pour récupérer ses œuvres, que le musée a toujours refusé de lui restituer, considérant qu'il s'agit là d'une partie de la collection, un des rares documents concernant les tziganes, et finissant par arguer que ces aquarelles n'appartiennent à personne, sinon à leur commanditaire, c'est-à-dire le docteur Mengele.
Ce qui est maintenu à Auschwitz, c'est la mémoire de Mengele. C'est la spécificité tzigane à Auschwitz, c'est Mengele. Le musée d'Auschwitz a très vite mis l'accent sur les expérimentations médicales qui ont été pratiquées à Auschwitz. Mais ce qui importe aussi de savoir, c'est que ces expérimentations médicales, elles ont eu un prolongement. Que découvrent ces jeunes contestataires allemands des années 70? Ils sont des étudiants en médecine qui, sur leur paillasse, reçoivent pour faire des expérimentations des bocaux avec des organes dans le formol. Et il y a des petites affichettes, des étiquettes marquées « Matériel de guerre Auschwitz ». Ils sont plus curieux que leurs aînés des années 60. Ils se demandent ce que cela veut dire. Des yeux, des viscères. Et ils découvrent très facilement, parce que les auteurs de ces actes sont encore vivants et exercent, telle Karine Manussen, qui collectait les yeux d'Auschwitz et les a gardés par-devers elle jusqu'aux années 70. Tels Eugène Fischer et Otmar von Verschuer, les patrons de Mengele, qui continuent d'officier. Ces étudiants en médecine se demandent comment ont été obtenus ces organes. Et ils découvrent, et on découvre, et maintenant c'est très bien connu, que c'est à la suite donc d'opérations de stérilisation de toute petite fille en série, pratiquées à vif, sans anesthésie, et qui étaient destinées à percer le secret des races, en mettant la main soit sur la possibilité de faire des stérilisations à la chaîne, donc les techniques de stérilisation à la chaîne, soit en mettant la main sur les secrets génétiques en fonction des maladies infectieuses. Alors par exemple, ça consistait à injecter la tuberculose et ensuite à prélever ses organes pour voir comment les transformations génétiques avaient été opérées. Je ne crois pas que l'Europe et l'Occident, et en particulier les États-Unis, mais l'Union soviétique aussi, et tout le monde entier, aient pris la mesure de ce que signifie Auschwitz sur ce plan. Et je ne pense pas que le musée d'Auschwitz rend compte du rôle, non pas comme un épiphénomène de médecin fou, mais comme un élément central de l'establishment scientifique et de ses dérives, les expérimentations qui ont été opérées sur ces tout petits enfants, sur les jumeaux, sur les yeux hétérochromes et sur ces petites filles laissées avec le ventre sanguignolant.
Sur la table se trouvait un téléphone, semblable au téléphone plat et gris des salles des professeurs à l'université. Je me souviens d'avoir appelé mon défunt père pour lui dire que Mengele était là et qu'il pouvait l'interroger. Et je me souviens aussi que mon père arriva, même si je ne sais pas s'il l'intervieva, si cela se fit. En revanche, je me souviens très clairement qu'un des Israéliens qui était assis à cette longue table et écoutait les explications, quelqu'un qui visiblement n'avait pas connu les camps, se tourna vers moi avec rancœur pour s'étonner et protester. « Comment pouvez-vous lui parler ?» Il était clair pour moi que par « lui », il entendait le docteur Mengele. Non pas en tant que guide et explicateur dans sa fonction présente, mais dans son identité d'alors. Pour ma part, je ne trouvais rien d'étrange ni de déraisonnable à cela. Et je ne me souviens plus si je tentais même de répondre ou d'expliquer.
I think that Auschwitz is a place which people want to come to think about.
Je crois qu'Auschwitz est un endroit où les gens se rendent pour réfléchir, pour comprendre le passé, pour tenter de comprendre le passé.
Jonathan Weber, anthropologue.
Pour
tenter de s'approcher de l'histoire avec des impressions qu'on ne peut pas éprouver quand on est chez soi, entouré de livres, dans un joli appartement. Alors, on va en Pologne, ce qui est déjà une expérience très étrange. Qu'est-ce que c'est que cette Europe de l'Est ? Bizarre. Cette Europe qui était derrière le rideau de fer. La première fois qu'elle est venue, en 1988, ma femme ne pouvait pas croire qu'il y ait d'autres gens dans l'avion. Mais pourquoi les gens vont-ils dans les cimetières ? Après tout, Auschwitz est le plus grand cimetière du monde. Sauf que ce n'est pas un cimetière. Ce n'est pas organisé comme un cimetière. Ça n'a pas été pensé comme un cimetière. Je me suis affronté avec le directeur actuel, M. Sivinsky, à ce propos. Je pense qu'on devrait ouvrir à Auschwitz un espace où les gens pourraient ériger des pierres tombales. Pourquoi serait-ce impossible ? C'est ce qu'on fait dans les cimetières militaires. Où est le problème ? Vous avez perdu toute votre famille à Auschwitz et vous ne pouvez pas poser une pierre tombale ? Ça me paraît insensé. Donc les gens viennent pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais ce n'est pas dans un cimetière qu'ils viennent, parce qu'il n'y a pas de stèle. Dans un vrai cimetière, les gens sont morts quand ils arrivent. À Auschwitz, par définition, les gens sont arrivés vivants. Ils sont morts alors qu'ils étaient à Auschwitz. Dans un cimetière, on veille sur les morts. À Auschwitz, on a assassiné les vivants. Ce n'est pas un cimetière. Auschwitz est donc un cimetière et Auschwitz n'est donc pas un cimetière. Il y a là un paradoxe, une contradiction, une des multiples contradictions de ce lieu. J'ajouterai encore une chose. Lorsque vous allez à Auschwitz pour la première fois, vous ne comprenez pas qu'en réalité, vous ne savez pas comment interpréter ce que vous voyez. Vous avez besoin de ce que j'appelle une philosophie touristique pour comprendre ce que vous voyez. Parce qu'il est difficile de saisir clairement le sens de ce qu'on a sous les yeux. Au printemps, le site est couvert de fleurs sauvages. C'est très joli, très charmant. Il y a une légère brise, c'est très agréable. Et aux premières neiges, c'est également très beau, c'est très photogénique, le matin ou à la tombée de la nuit. Mais c'est un lieu d'horreur absolue. Un lieu dont on ne pouvait pas s'échapper. Certains jours où la vue était dégagée, on distinguait les montagnes. On peut parfois voir les montagnes au sud. Ce ne sont pas des montagnes très hautes, mais les gens pouvaient en rêver.
Des cars et des cars dans le parking adjacent, et des adolescents par groupe, l'air accablé, l'air distrait, près de la cafétéria. À quelques mètres de l'entrée, un poteau est entièrement recouvert de tickets collés les uns sur les autres. Auschwitz-Birkenau, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski. Longtemps ici, la visite a été presque obligatoire pour les écoliers de ce pays, et les Polonais sont les visiteurs les plus nombreux. Le musée invite-t-il en silence à s'interroger sur les rapports entre Juifs et Polonais ? Depuis quand ? En Pologne, un premier coup a été porté à l'image héroïque du pays avec le film Shoah, en 1985. D'autres suivront, qui vont exposer à vif un versant de la Shoah où les Polonais catholiques ne sont pas les victimes.
Un film qui n'est pas sorti sur les écrans en Pologne.
Elżbieta Janicka, historienne.
La sortie de Shoah de Lanzmann en 1985. À ma grande surprise, j'ai vu tout d'un coup les ennemis politiques réunis dans une défense unanime de la réputation de la Pologne.
Le film, il a été diffusé à la télévision.
Seulement les extraits concernant la Pologne. Et c'était aussi assez extraordinaire. C'était la seule fois de toute ma vie où mes parents m'ont demandé de quitter la pièce sans avoir vu le film. Et puis, ce genre d'interdiction, ça n'a jamais existé dans notre famille.
Alors, vous aviez 15 ans ?
J'avais 15 ans.
J'ai été extraordinairement surpris de la demande du gouvernement polonais qui a convoqué le chargé d'affaires français en lui demandant d'interdire le passage du film à la télévision, ce qui est premièrement absurde parce que il n'est pas question que ce film passe à la télévision, ou si ça arrive, ça se fera très tard, dans très longtemps.
Claude Lanzmann.
Parce que c'est un film de cinéma, et je tiens à le
3
dire.
3 mai 1985.
La télévision attendra. Et par ailleurs, si des gens avaient eu à demander l'interdiction, beaucoup plus que le gouvernement communiste polonais, ça aurait dû être les autorités ecclésiastiques ou bien le Vatican. Parce que ce qu'on voit dans le film, l'antisémitisme polonais qui apparaît dans le film, c'est pas du tout un antisémitisme communiste, c'est le vieil antisémitisme chrétien, viscéral, moyenâgeux, des paysans polonais qui sont eux-mêmes farouchement anticommunistes et contre le régime. Alors, d'abord, je trouve que c'est une prétention exorbitante de demander l'interdiction d'un film. Ça n'est pas moi qui parle, ce sont les Polonais eux-mêmes qui parlent. et qui racontent, ils étaient les témoins directs de l'extermination, ils cultivaient leurs champs à la lisière des camps, ils entendaient tout, ils voyaient tout, ils sentaient tout, même puisque la Pologne puait les charniers jusqu'au ciel. Et je veux bien vous dire autre chose.
Après, il y a le film de Lanzmann, Shoah, qui sort en Pologne de façon tronquée, parce qu'on ne montre à la télévision polonaise que la partie polonaise. Et les autorités polonaises manipulent le message de Shoah, et ça donne lieu à une grande discussion.
Jean-Charles Chourek, historien.
À la fois dans la presse officielle communiste de l'époque, mais aussi dans la presse clandestine de Solidarność. Solidarność ayant été déjà, à l'époque, délégalisé. C'est un mouvement clandestin. Mais il existe des tas de documents, d'articles écrits dans la clandestinité, et notamment à propos du film Shoah. Et ça aussi, ça donne lieu à une sorte de prise de conscience, notamment l'un des principaux opposants polonais, leader de la future opposition démocratique, de l'opposition démocratique qui s'appelle Jacek Kuroń, il écrit un papier où il dit « Mais moi, je sais que les Juifs ont été une seconde catégorie, il a un papier tout à fait intéressant là-dessus, sous l'occupation, et que la population polonaise ne s'est pas nécessairement bien comportée. »
Nous allons rencontrer à Varsovie l'écrivain Anna Bikont et la chercheuse Elbieta Janica. Le même brouillard couvre la ville, dont nous ne voyons que l'architecture monumentale, écrasante, et d'immenses panneaux publicitaires. Au sortir d'un petit jardin, l'écho d'une manifestation. Voix martiale, qui répète en cœur quelles exigences, ravive quels souvenirs.
La première chose que j'avais faite en arrivant en France pour commencer mes études de lettres à la fac de Jussieu.
Donc un peu plus tard,
quatre ans plus tard, c'était d'aller voir Shoah. Et j'en suis sortie absolument perplexe, sans rien comprendre, parce que dans ce film, il n'y avait strictement rien.
C'est-à-dire ?
Rien, en dehors de ce que je savais déjà. Le genre de propos proféré par les Polonais qui y figurent, j'ai entendu mille fois pire. Et j'entends toujours mille fois pire plusieurs fois par semaine, plusieurs fois en une journée. Donc je voyais pas où était la raison de cette révolte et de cette campagne de haine aussi contre ce film et contre son réalisateur. Au fil du temps, j'ai compris que les Polonais, sur cet écran de télévision, ils n'ont pas vu ce que Lanzmann a montré, ils ont vu ce qu'ils savaient eux-mêmes, et ce qu'ils ont dû vivre, et ce qu'ils ont dû entendre, et ce que... Voilà. Donc, en fait, cet écran était un écran de projection.
Dans votre famille, c'était un mot qu'on prononçait ?
Oui, Auschwitz, ils m'ont dit, non, Auschwitz...
Anna Bikont.
Et on parlait parce que Oświęcim, c'était.
Journaliste et écrivain.
C'était un nom pour dire que les Juifs ont été tués quelque part. Non, que ça ne s'est pas passé partout en Pologne. Mais c'était la place. Il ne me semble pas que j'ai entendu le nom Treblinka, où les Juifs de Varsovie ont été tués pendant toute mon enfance ou l'adolescence.
Ce silence-là, entourant les Juifs de Pologne assassinés, il était très présent dans votre enfance.
C'est difficile de dire que le silence est présent, parce que c'était quelque chose de non existant. C'était pas un silence qui pesait. C'est-à-dire, moi, j'étais pas. Je crois que des gens qui étaient élevés comme juifs, ça pouvait être un silence qui pesait. Mais moi, ma mère ne me disait pas qu'elle est juive, j'étais polonaise, et donc non, c'était pas un silence qui pesait. À un certain moment, mais déjà je faisais des études universitaires, j'ai commencé à voir cette non-existence des Juifs, mais c'était tard.
Donc votre mère vous a caché qu'elle était juive?
Oui, ma mère trouvait qu'en Pologne, c'est mieux de ne pas être juif, donc elle ne veut pas le dire aux enfants, parce que c'est mieux pour eux qu'ils ne soient pas juifs. Pour elle, c'était évident.
En 2000, l'historien polono-américain Jan Gross publie une enquête intitulée « Les voisins ». Il y dévoile ce qui, depuis 60 ans, a été présenté comme un crime allemand. Le massacre de Yedvabné, où avec une cruauté particulière, tous les juifs du village ont été assassinés en un jour. Le livre fait l'effet d'une bombe en Pologne.
L'historiographie polonaise, l'opinion polonaise se sont constituées sur l'idée légitime que la Pologne avait été victime d'une double occupation. L'occupation nazie, l'occupation soviétique, avec des effets terribles. Et donc, cette opinion polonaise s'est vécue comme une nation innocente. Le livre de Jan Gross, Les voisins, qui raconte la destruction d'une population juive par ses voisins polonais dans une bourgade de l'est de la Pologne le 10 juillet 1941, cette révélation a fait l'effet d'une bombe, effectivement, en Pologne, parce que l'opinion polonaise n'imaginait pas que non seulement qu'ils auraient pu aussi être des bourreaux à l'égard des concitoyens juifs. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas dans les représentations et dans l'héritage historiographique constitué de l'héroïsme des Polonais contre l'occupation allemande, l'héroïsme des Polonais lors de l'insurrection de Varsovie, et essentiellement l'insurrection, l'héroïsme des Polonais de l'AK, de l'armée du pays qui représentait le gouvernement légal de Londres. Donc, c'est une nation héroïque. Avec l'affaire de Yedvabné découverte par Jan Gross, l'opinion découvre qu'il se passait aussi des choses autres et que les Polonais n'étaient pas seulement témoins, mais que ces témoins étaient aussi des acteurs, et même des acteurs assassins parfois.
Et il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'est pas vrai, que c'est inventé, etc. Mais il y avait beaucoup de Polonais qui voulaient se confronter dans ce temps, avec ce passé.
Cette enquête, qu'est-ce qu'elle raconte, l'enquête de Jan Gross?
Cette enquête raconte que le 10 juillet 1941... les Juifs de Yedvabne, quelques centaines de personnes, c'est-à-dire Gross écrivait que 1600 personnes, mais c'était quelques centaines de personnes, ont été par des Polonais menés à une grange où ils ont été brûlés vifs, femmes, enfants, vieilles personnes, oui. Et ça s'est passé au moment, parce que c'était la part de Pologne qui était sous l'occupation soviétique, et ça s'est passé quand il y a eu la guerre entre les Soviétiques et les Allemands, donc en 1941, et les Allemands sont juste entrés. Il n'y avait pas encore de l'administration, il y avait seulement les premiers groupes armés d'Allemands qui sont entrés dans cette ville, et les Polonais ont pris le pouvoir dans leurs mains, et ils ont décidé de tuer tous les Juifs.
Mais ce massacre, il a été raconté comme un massacre des Allemands.
Ce massacre était raconté pendant des années comme le massacre des Allemands. Il y avait une plaque qui disait que les Allemands ont tué 1600 Juifs à Yedvabne. Et c'était quelque chose de complètement inconnu. C'est-à-dire, c'est vraiment... on peut dire que personne ne le savait, à part un petit milieu d'historiens juifs, très petit, et la plupart de ces gens étaient partis.
La discussion autour du livre de Jan Gross a duré une dizaine d'années. D'abord, l'opinion a été incrédule, au point que l'Institut de la mémoire nationale, qui est l'institut qui est en charge de la recherche sur les crimes nazis et sur les crimes staliniens, l'Institut de la mémoire nationale a envoyé les meilleurs historiens dans les archives allemandes, israéliennes, biélorusses, russes, polonaises, vérifier si ce que Gross disait était juste, était vrai. Ils en sont revenus avec l'information que ce n'était pas seulement un seul Yedvabné qui avait eu lieu dans cette zone, mais une vingtaine. Que dans le village d'à côté, à 3 kilomètres de là, il y avait eu un pogrom de même nature quelques jours plus tôt. Donc, voilà quelque chose qui a révolutionné beaucoup le regard. Et ça a mis du temps, parce que même les historiens polonais qui travaillaient sur la résistance anticommuniste dans cette zone, dans la zone de Jedwabne, à l'est de la Pologne, ne connaissaient pas l'histoire de ce pogrom-là. Ils ont mis ça en doute, en cause, mais bon, voilà. Au bout de 10 ans, finalement, Jan Gross a gagné sur le plan historique, mais d'une certaine façon, il a perdu sur le plan politique, parce que en 2015, survient un gouvernement, qui est le gouvernement du Parti Droit et Justice, qui va introduire une politique patriotique, nationaliste, de révision des acquis survenus avec le livre de Gross. Alors, quels sont ces acquis? Ces acquis, c'est que, à partir du livre de Gross, un groupe de jeunes historiens, et pas que des historiens d'ailleurs, plusieurs sciences sociales sont présentes, ces chercheurs s'associent pour examiner de plus près les rapports qu'il y avait entre juifs et polonais. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'alors, il y avait une sorte de double mensonge à propos des rapports entre juifs polonais qui avaient été introduits durant la période communiste. Un, que les Polonais avaient beaucoup sauvé les juifs. Et deux, que ces Polonais qui s'étaient mal comportés, c'était des marginaux sociaux, ce qu'on appelait des schmalsownik, c'est-à-dire des marginaux sociaux, des gens qui des profiteurs de juifs, des maîtres chanteurs des profiteurs. C'était ça le discours général produit durant la période communiste. Et là, maintenant, on rentre dans une zone grise, parce que ces nouveaux, ces chercheurs, montrent maintenant que il y avait des Polonais dans des villages, dans des localités qui étaient en réalité des habitants intéressés, qu'ils conservaient des juifs moyennant de l'argent, puis dès que le juif qui était là ne pouvait plus les payer, ils s'en débarrassaient en les donnant aux Allemands, ou bien ils les tuaient eux-mêmes. Enfin, il y a toute une gamme de comportements qui sont racontés par nos collègues polonais, notamment par la chef de file de cette école, qui s'appelle Barbara Engelking, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui est sorti en 2015. Et notre collègue Grabowski aussi a écrit un livre sur un district polonais, une province polonaise, où il montre comment les populations polonaises se comportaient à l'égard des Juifs, et c'était extrêmement critique.
C'est bizarre parce que, vous savez, tous les faits ont été là. Et quand vous regardez l'histoire de la Shoah, vous avez centaines de sites où les Polonais étaient témoins, ou bien les Polonais assassinaient eux-mêmes les Juifs. Quand on se promène dans les villages de l'est de la Pologne, il y a toujours les gens qui savent où sont les cadavres en fait cachés.
Jan Grabowski, maintenant, historien.
Peut-être le livre de Jan Gross est arrivé dans un bon moment, quand après ce changement de génération, quand les gens étaient déjà prêts à accepter une certaine vérité. C'est quelque chose qui a été plutôt en secret public avant. Donc le choc relié à la publication était énorme. Si on parlait en fait d'un événement isolé, ça aurait été une autre histoire. Mais ici, on a parlé de dizaines de villes ou de villages où le massacre pareil ont été commis. Pour les Polonais, c'était doublement dur parce que jusqu'à 2000, par la suite aussi, en Pologne, l'occupation est devenue vraiment le, comme on dit, holy of the holies, c'est-à-dire le territoire où on bâtit la conscience nationale, l'identité nationale, sur le courage national, sur la moralité nationale, la morale nationale pendant l'occupation. Donc il n'y a pas de place, vraiment. Et c'est, encore une fois, le dire à haute voix que les Polonais sont éduqués dans l'éthos de la victime. Nous avons été une victime innocente de l'histoire. D'un côté, totalitarisme nazi. De l'autre côté, totalitarisme soviétique. Nous sommes pris entre les deux mots. Nous avons gardé notre moralité, notre innocence. Bon, arrive Jan Gross, et tout à coup, cette innocence s'avère un fantôme, un mythe. Donc, la réaction, il faut comprendre les réactions dans le contexte de cette éducation nationale qui dure jusqu'à aujourd'hui, où vraiment il y a peu de place ou pas de place pour ce genre de discours.
Il me semble que le livre de Jan Gross et ce qui s'est passé après a beaucoup changé la Pologne, même si ce n'est pas toute la Pologne. Mais tout de même, Premièrement, parce que pour beaucoup de gens, Yedvabne était un choc dans différentes dimensions. Une des dimensions, c'était parce que c'était l'histoire que la moitié d'une petite ville a tué l'autre moitié de la petite ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens, parce que c'était une ville bizarre où il y avait moitié-moitié, il y avait tant de juifs qui vivaient. Et les gens sont commencé à se demander, et dans ma ville? Et je me rappelle quand j'étais justement à Auschwitz, et j'ai parlé avec un guide qui était de Oświęcim. Et il m'a dit que quand il a lu le livre, il s'est demandé, est-ce que c'est possible qu'à Oświęcim des juifs vivaient? Il n'avait jamais su. Et il a commencé à s'intéresser. Et c'était pour beaucoup de gens, parce que quand on, par exemple, on allait dans une petite ville ou un village, ou surtout des villes, et il y avait des guides, il n'y avait rien qu'il y avait des juifs. Et les juifs étaient dans les villes en Pologne, c'était vraiment de 30%, 40%, 50%, 60%. C'est-à-dire, c'était, les villes étaient très, très juives, et ça n'existait pas du tout. Et les gens ont commencé à se demander comment c'était chez nous, et il y a eu beaucoup d'initiatives locales de se demander, de voir où est le cimetière juif, de le ranger. Et ça a changé l'architecture des villes, il me semble, que ces lieux juifs ont commencé à exister dans la ville. Qu'on a vu, par exemple, que ici c'était la synagogue. Et quand on passait par cette synagogue, qui est un magasin de vêtements depuis des années, mais personne ne savait que c'est une synagogue, bien que ça avait tous les traits d'une synagogue. Et que maintenant, chacun voit que c'est une synagogue.
En 1989, Jonathan Weber vient travailler à Auschwitz, où il s'est rendu une première fois jeune homme. Il est alors déjà anthropologue et va observer les différents publics qui se rendent sur le site. Mais il est également curieux de la vie d'avant, la vie effacée des Juifs de Pologne, couverte par quelques centimètres de terre, quelques mensonges, quelques dissimulations.
Je suis devenu très ami avec le directeur de l'Institut de sociologie, ici, à Cracovie. Nous avons décidé de monter un projet de recherche autour de la ville d'Oświęcim. Nous avons cherché des habitants qui auraient des souvenirs de la ville pendant la guerre. Mon collègue, le directeur de l'Institut, m'accompagnait toujours, où que j'aille, car je ne parlais pas un mot de polonais. Nous avons fait pas mal de recherches. Par exemple, je marchais dans la ville et je cherchais à repérer où les synagogues avaient pu se trouver. Et j'ai trouvé un bâtiment.
We were staying in the German house, generally known as the Dom Młodzieży.
Nous habitions dans ce qu'on appelait la maison allemande.
Today, but in those days it was just known as Dom Młodzieży. It had just been built.
Qui venait d'être construite dans la ville d'Oświęcim.
We were staying there, and the director of that German house, which was intended really for German students to come and
le directeur de cette maison allemande, destinée à accueillir des étudiants allemands venus réfléchir et apprendre à Auschwitz, était spécialiste de l'histoire de la ville. Je lui ai demandé s'il y avait encore des synagogues, et il a été catégorique, il n'y en avait plus aucune.
Anyway, so I took a walk in the town, and after about 20 minutes, I found a building which, in my opinion, would have been a synagogue.
Je me suis promené et en 20 minutes, je suis tombé sur un bâtiment qui, à mes yeux, était une ancienne synagogue.
I asked him to come with me to that building because I needed somebody to translate in Polish. We entered, it was a warehouse for carpets.
J'ai demandé à mon ami de revenir avec moi parce que j'avais besoin d'un traducteur.
The carpets were all rolled up.
Le bâtiment était un entrepôt de tapis. Le directeur m'a présenté aux ouvriers comme un de ses invités, un Anglais.
And he said to them, as follows, you know, tell them that I'm specialist in the history of Armenian churches. I didn't want to say the word Jewish because
dis-leur que je suis un spécialiste des églises arméniennes.
It was still communist times, and I was not sure if
je ne voulais pas prononcer le mot juif. On était encore sous le régime communiste et je n'étais pas certain qu'il fût très intelligent de prononcer le mot juif dans la ville d'Auschwitz.
My friend here specializes in Armenian churches and he thinks this is.
Alors il a dit, mon ami qui travaille sur les églises arméniennes croit avoir repéré ici une église arménienne. Les ouvriers ont hoché la tête. Mais oui, votre ami anglais a absolument raison. C'est bien une église arménienne. Comment le savez-vous? Ai-je demandé. Parce qu'il y a des caractères arméniens sur le mur. Vraiment, j'aimerais beaucoup les voir. Ah, bien sûr, c'est possible, ont-ils répondu. Mais vous voyez, l'entrepôt est plein de tapis roulés les uns sur les autres, et il va bien nous falloir 2 ou 3 heures pour les déplacer. J'ai ouvert mon porte-monnaie. J'avais un billet de $5.
$5 was a lot of money in those days. You could buy 5 bottles of vodka.
C'était pas mal d'argent à l'époque.
So I gave them.
On pouvait bien acheter 5 bouteilles de vodka. Je leur ai donné le billet.
So we came back 2 hours later, and they had moved.
Quand nous sommes revenus, les murs avaient été dégagés.
What did you see on the wall was a beautiful inscription in Hebrew.
Il y avait là une très belle inscription en hébreu.
Which is a translation from the Hebrew Bible saying.
Une phrase de la Bible hébraïque qui dit.
Da lifnei mi ata omed, know before whom you stand, before the Holy One, blessed be He.
C'est-à-dire.
In Hebrew.
Sache devant qui tu te tiens, devant celui qui est saint, béni soit-il.
Il y a une histoire longue de cette ville qui s'est appelée depuis le XIIe siècle à la fois Oświęcim et Auschwitz parce qu'elle a toujours été disputée à la fois par la royauté polonaise et par l'empire germanique ou les empires germaniques qui se sont succédés ou les pouvoirs germaniques.
Tal Ruttmann, historien.
Auschwitz était aussi un shtetl qui était une ville à majorité juive qui s'appelait en yiddish Auschpitzin et il y a encore des traces qui sont mises en avant de la présence de cette population juive qui a disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez tout le quartier de colonisation qui a été construit par les prisonniers pour la colonisation allemande, puisque la ville devait être le porte-étendard de la reconquête allemande vers l'Est. Mais ça vous montre juste une chose simple, cette ville continue à exister. Elle fait partie de cet ensemble de 40 km², elle fait partie intégrante de cet ensemble, et pourtant elle n'intéresse pas les visiteurs. Il faut vraiment avoir conscience, quand on pense à Auschwitz et quand on va le visiter, on ne voit pas la ville d'abord, puisque la route qui y mène, on arrive de Katowice ou de Cracovie, on passe par ce qui s'appelait à l'époque le nouveau quartier Zasolet, là où il y a la gare, et on ne voit pas la ville historique d'Auschwitz. Du coup, on ne se rend pas compte à quel point le camp est greffé sur la ville. Mais on ne se rend pas non plus compte à quel point cette gare, qui aujourd'hui a changé de physionomie, était une gare majeure, avec un flux permanent de trains qui circulent. Et le rappeler, c'est une importance fondamentale, parce qu'on s'imagine Auschwitz, qu'il s'agisse, quand on visite ou quand on regarde les photos à l'époque, d'un lieu qui serait relégué. Mais en fait, absolument pas. Tous les jours, vous avez des milliers de voyageurs qui passent devant, qui passe en train, donc quand on est en train, on est assis à 2,50 m de hauteur à l'époque, en gros, et on a une vue découverte sur tout cet ensemble-là, en particulier Birkenau, qui fait 2 km de long et qui longe la voie ferrée. Donc c'est pas un secret, non seulement c'est pas un secret, et qui voyage en train peut voir, mais on sent les odeurs de mort. Alors, il y a plein de témoignages des employés d'IG Farben, des Allemands, qui expliquent que oui, ils savaient ce qui se passait, puisque ça puait la mort, ce qui est confirmé par d'autres. Tout le monde parle des cendres qui se déversent dans la ville, et il faut vraiment comprendre que c'est pas juste un microcosme qui serait enserré dans cet endroit, qui serait déconnecté du reste. Tout ça, ça participe d'un ensemble qu'on ne peut plus voir, qu'on ne peut plus percevoir aujourd'hui, puisqu'on prend une voiture ou un bus, on arrive devant le musée, on le visite, on va à Birkenau ou le contraire. Et on ne se rend pas compte à quel point il y avait une vie à l'époque mais personne ne va visiter cette ville, alors qu'il y a beaucoup à voir.
C'est la fin de la journée. Nous passons devant des usines vides, taguées, des entrepôts. Un paysage morne nous entoure, avec ces mêmes arbres en taillis, cette même herbe, ces rails, et de temps en temps, des maisons et des antennes paraboliques. La ville n'est pas loin, comment le croire? Le soir, Osvissim est un dédale de rue sombre, une place carrée où deux banques se font face, avec des restaurants déserts. Qui vit ici du tourisme du camp? Qui y travaille? Qui en attend les événements? Sans doute, lors des grandes commémorations, les restaurants, les hôtels s'animent-ils quelques jours. En janvier 2005, lors de la commémoration des 60 ans de l'ouverture du camp, 10 000 personnes étaient présentes, un millier de survivants, une centaine des combattants de l'armée rouge qui avaient ouvert le camp. 44 chefs d'État, dont Vladimir Poutine. Cette année-là, les Nations Unies déclarent le 27 janvier Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. 11 ans avant, en 1994, près d'un million de Tutsis étaient exterminés au Rwanda. 30 ans avant, en 1975, le génocide cambodgien commençait, qui allait faire près de 2 millions de morts. Mais « plus jamais ça », répète-t-on, fait-on semblant de croire, en 2005, à Auschwitz-Birkenau, dans la parenthèse d'une Europe pacifiée.
Si je reprends la chronologie de 2005, il y a pendant un mois en permanence des documentaires, des discussions, et puis l'ACMÉ, c'est la commémoration à Auschwitz elle-même. En ce qui concerne la France, deux éléments. Le premier, c'est la nouvelle exposition au pavillon français, et puis l'autre élément français, ça va être par la volonté de Serge Larsfeld, l'installation d'un wagon à ce qu'on appelle la Judenramp, le quai aux Juifs, qui est à
historienne.
Quelques encablures, je ne sais plus exactement combien, de Birkenau, et qui a été le lieu où les déportés sont arrivés avant que la ligne de chemin de fer pour les Hongrois soit prolongée. Rentre dans le camp de Birkenau et barre en fait le camp en deux parties, mais ça, c'est au moment de l'arrivée des Hongrois au printemps 44. Donc il y a ce wagon installé sur la Judenramp. Donc pour les Français, c'est important. La cérémonie, c'est une cérémonie internationale. Donc il y a quatre orateurs. Les libérateurs soviétiques, c'est Vladimir Poutine qui parle au nom des libérateurs soviétiques. Les prisonniers politique polonais, c'est Władysław Bartoszewski. Pour parler au nom de ses camarades juifs, Simone Veil. Et pour les tziganes, Romani Rose, qui préside l'association la plus importante des tziganes. Et puis, il y a beaucoup de monde. Donc, il y avait tous les déportés qui étaient encore valides, Henri Boulavko, les grandes personnalités, Claude Lanzmann, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il n'y avait jamais eu une commémoration comme celle-là, et il n'y en aura plus, puisque ce qui caractérise la commémoration du 80e anniversaire, à quelques exceptions près, c'est que, quoique tous les survivants sont invités, ils sont extrêmement peu nombreux. Et jusqu'à ces toutes dernières années, on disait, on pensait que Auschwitz, c'était un lieu de mémoire européen. Et que la mémoire d'Auschwitz avait une utilité pour l'Europe et la paix. Et on a beaucoup mis en avant, à juste titre, la figure de Simone Veil. C'est-à-dire Simone Veil, tout à la fois survivante d'Auschwitz, mais aussi première présidente du premier Parlement européen. Donc, on tenait debout ensemble avec Simone Veil. Et après la chute du mur, on a eu 10, 12 ans exceptionnels.
C'est-à-dire, ça a été des années où on a pensé que la démocratie allait s'installer partout, que le libéralisme économique devenait le système économique mondial, et que pour tout ça, il fallait une sorte de ciment qui était les droits de l'homme. Et que pour enseigner les droits de l'homme, on pouvait enseigner ce qu'avait été Auschwitz comme la négation absolue de, pas seulement des droits de l'homme, mais même de l'humanité qui est dans l'homme. Aujourd'hui, je voudrais pas être pessimiste, même si je le suis plutôt. Aujourd'hui, on a une sorte de renversement qui est que, c'est mon ami la psychanalyste Alistair qui disait « tout le monde veut sa chambre à gaz ». C'est-à-dire qu'on a cette idée que les victimes, il y en a partout, et Auschwitz ne peut plus jouer le rôle qui a été le sien de cette période qui va... Alors, en histoire, il n'y a pas de soudure nette, hein, mais qui va quand même, grosso modo, de la chute du mur aux tours jumelles de septembre 2001. Et ça a été cette période bénie où on a cru qu'on avait installé vraiment quelque chose. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais acquis.
Merci à Henriette Asseo, historienne, spécialiste de l'histoire du peuple tzigane en Europe. Tal Brutmann, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme au XXe siècle. Anna Bicount, journaliste et écrivain. Jan Grabowski, historien, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la Shoah en Pologne. Elbieta Janica, chercheuse, professeur à l'Institut d'études slaves de l'Académie polonaise des sciences, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. Jean-Charles Chourek, historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Jonathan Weber, anthropologue, ancien membre du Conseil international d'Auschwitz. Merci à Annette Viviorka, historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, sans qui cette série d'émissions n'aurait pu avoir lieu. Textes extraits de Paysages de la métropole de la mort, d'Otto Dov Kulka, lu par Pierre Weiss. Merci à Gaëlle Gilon, voix française de Jonathan Weber, et merci au musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz, Archivina Delphine André, prise de son Benjamin Reyes, Cédric Chatelus, Marie-Claire Oumabadi, Ludovic Auger, Sébastien Royer, Élise Leu. Mixage, Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. Une série de Béatrice Leca et Yaël Mandelbaum.